Et avant de lire les textes pour notre méditation aujourd'hui dans la Bible, je vous invite à prier. Seigneur, que ta parole soit encore nouvelle pour nous aujourd'hui. Même si nous l'avons entendue maintes et maintes fois, nous croyons que ton esprit peut la rendre nouvelle, peut nous permettre de la comprendre différemment et qu'elle peut, de ce fait, renouveler nos vies, renouveler le monde dans lequel nous vivons, renouveler notre Église. Amen. Je lirai d'abord un premier passage dans le livre de Samuel, Samuel 8, à partir du verset 10. Le peuple vient de demander à Samuel un roi. Ils veulent un roi. Samuel interroge Dieu et voilà comment il rapporte au peuple ensuite ses paroles. Samuel répète toutes les paroles du Seigneur aux Israélites qui lui ont demandé un roi et il leur dit « Le roi qui vous gouvernera, voilà ce qu'il aura le droit de faire. Il prendra parmi vos fils des soldats pour conduire ses chars de guerre, ils monteront ses chevaux, ou bien ils courront devant son char. Certains devront commander 1000 hommes ou 50 hommes, d'autres laboureront ses champs et feront ses récoltes, d'autres fabriqueront ses armes et feront du matériel pour ses chars. Il prendra aussi vos filles comme parfumeuses, cuisinières et boulangères. Il prendra vos meilleurs champs, vos plus belles vignes et vos plus beaux oliviers, et il les donnera à ses officiers. Il prendra le 10e de vos récoltes dans vos champs et dans vos vignes. Il le donnera à ses fonctionnaires et à ses officiers. Il prendra vos serviteurs et vos servantes. Il choisira les plus forts de vos jeunes gens et même vos ânes pour les mettre à son service. Dans vos troupeaux, il prendra un mouton sur 10 et une chèvre sur 10. Enfin, vous-même, vous serez ses esclaves. À ce moment-là, vous crierez vers le Seigneur à cause du roi que vous aurez choisi. Mais le Seigneur ne vous répondra pas. Comme quoi, de choisir son chef, c'est pas toujours ce qui est la voie de la démocratie, c'est pas toujours la panacée universelle. Et puis, le texte qui sera celui de notre méditation, et qui traite aussi de cette question du pouvoir, et qui se trouve dans l'Évangile selon Matthieu, au chapitre 4, à partir du verset 1 jusqu'au verset 11. Alors, l'Esprit de Dieu conduit Jésus dans le désert pour que l'esprit du mal le tente. Pendant 40 jours et 40 nuits, Jésus ne mange rien. Ensuite, il a faim. L'esprit du mal s'approche de Jésus pour le tenter et lui dit « Si tu es le Fils de Dieu, dis à ces pierres, changez-vous en pain. » Jésus lui répond « Dans les livres saints, on lit, le pain ne suffit pas à faire vivre l'homme. Celui-ci a besoin aussi de toutes les paroles qui sortent de la bouche de Dieu. » Alors, l'esprit du mal amène Jésus à Jérusalem, la ville sainte. Il le place au sommet du temple et lui dit « Si tu es le Fils de Dieu, jette-toi en bas. » En effet, dans les livres saints, on lit « Dieu commandera à ses anges de te porter dans leurs bras pour que tes pieds ne heurtent pas les pierres. » Jésus lui répond « Dans les livres saints, on lit aussi « Tu ne dois pas provoquer le Seigneur ton Dieu. » L'esprit du mal amène encore Jésus sur une très haute montagne. Il lui montre tous les royaumes du monde avec leurs richesses et il lui dit « Mets-toi à genoux devant moi pour m'adorer et je vais te donner tout cela. » Jésus lui dit « Va-t'en, Satan. En effet, dans les livres saints, on lit « C'est le Seigneur ton Dieu que tu dois adorer, c'est lui seul que tu dois servir. » Alors, l'esprit du mal laisse Jésus, des anges s'approchent de Jésus et ils lui donnent à manger. C'est sur la dernière des tentations de Jésus que je voudrais m'arrêter ce matin. Peut-être je peux relire ces deux ou trois versets dans Matthieu 4. L'esprit du mal amène encore Jésus sur une très haute montagne et il lui montre tous les royaumes du monde avec leurs richesses et lui dit « Mets-toi à genoux devant moi pour m'adorer et je vais te donner tout cela. » Ce choix, le choix de s'arrêter sur cette troisième tentation plutôt que sur les deux premières n'est pas tout à fait innocent de ma part vu les luttes de pouvoir auxquelles on assiste aujourd'hui et qui déchirent notre monde, notre pays et souvent les églises. Je sais bien que cette recherche du pouvoir n'est absolument pas une nouveauté. Il n'empêche qu'elle structure encore notre monde aujourd'hui et que la démocratie, le pouvoir du peuple, j'y mets des guillemets, est loin d'y avoir mis fin, que je sache. La démocratie a changé la manière par laquelle on accède au pouvoir, mais pas totalement la façon d'exercer le pouvoir. On s'en rend compte. Je ne suis pas contre la démocratie, hein, ne faites pas dire ce que je n'ai pas dit, hein, loin de là. Hein. Il est toujours difficile, de toute façon, de parler du pouvoir politique dans l'Église. Peut-être parce que on a peur de vexer aussi ceux qui exercent ce pouvoir et dont nous avons quand même bien besoin. Je vous rappelle, nous sommes ici dans un temple qui appartient à la municipalité, par exemple. Voilà. Et depuis la conversion de Constantin et puis celle de Clovis, les églises ont pris l'habitude de chercher à devenir les alliés des pouvoirs sous prétexte qu'un pouvoir favorable, voire un pouvoir chrétien, favoriserait la diffusion de l'Évangile et donc la croissance de l'Église. Le pouvoir politique a souvent accepté de partager son pouvoir avec l'Église, qui le lui a bien rendu en proclamant en retour que le pouvoir politique participe aussi à l'œuvre de Dieu. On a entendu ça un certain nombre de fois dans l'histoire. Et aujourd'hui, ça continue encore. Dans de nombreux pays, des églises de tous bords, catholiques, protestantes, orthodoxes, selon les lieux, n'hésitent pas à soutenir certains candidats à diverses élections, en espérant qu'une fois élus, en retour, eh bien, ils aideront l'Église. Alors, bien sûr, on pense tout de suite aux États-Unis et à la Russie, mais il en existe beaucoup d'autres, et je ne vais pas les énumérer, il y en aurait trop. Les responsables d'églises qui ont contracté ou contractent ces alliances pensent bien faire, ce ne sont pas forcément des gens pourris à la base, et je ne veux surtout pas leur jeter la pierre. Et reconnaissons qu'en France, nous sommes généralement satisfaits de voir que la Fédération protestante de France entretient de bonnes relations avec nos dirigeants, et que cela nous permet de résoudre un certain nombre de problèmes plus facilement, c'est sûr. Vous savez que avant les élections, à la Fédération protestante, on reçoit chaque fois tous les candidats pour discuter avec eux de ce qu'ils vont faire. Hein, des candidats, en tout cas, à la présidence de la République, je veux dire. Mais ne peut-on pas entretenir de bonnes relations avec le pouvoir politique sans pour autant le soutenir? Ne faudrait-il pas justement insister sur cette distinction? Entretenir de bonnes relations et ne pas forcément le soutenir. Et c'est, je crois, ce que Jésus nous invite à faire dans ce texte. Il faut être honnête avec la Bible et redire que même si le texte biblique reconnaît la nécessité des pouvoirs politiques, celui-ci en est généralement très critique. Le texte d'aujourd'hui se situe résolument dans ce courant très négatif vis-à-vis des pouvoirs. Il y en a d'autres plus positifs, mais il y en a beaucoup qui sont très négatifs. Il vient appuyer tout ce que les prophètes de l'Ancien Testament en disaient déjà, depuis Samuel jusqu'au dernier. La première affirmation, pour le moins radicale, en est que le pouvoir appartient au diable et pas à Dieu. C'est bien le diable qui propose à Jésus de le lui donner, ce qui sous-entend évidemment que celui-ci lui appartient et qu'il peut le donner à qui il veut. Jésus ne conteste pas cette affirmation. Il accepte tout à fait l'idée que ce pouvoir appartient au diable. Et il ne lui répond pas « Le vrai maître, c'est Dieu. Tu te trompes. » Il lui répond simplement qu'il n'en veut pas. C'est tout. Et affirmer cela est lourd de conséquences, car cela revient à dire que tous les pouvoirs dépendent d'une manière ou d'une autre de lui. Alors que si souvent dans son histoire, l'Église a voulu croire ou laisser croire que le pouvoir pouvait venir de Dieu. Pour bien comprendre les enjeux de ce passage, il faut encore savoir que le diable, alors qui est traduit dans la version qu'on a eue par l'esprit du mal, mais ce n'est pas une bonne traduction, c'est bien « diable » qui est dans le texte original. Pour une fois, ce sont les anciennes versions qui ont raison. Il faut encore savoir donc que le diable n'a rien à voir avec les images médiévales dantesques que l'on en a fait, mais que dans la Bible, le diable, étymologiquement, c'est la force de division entre les humains. Ce quelque chose qui fait que les humains n'arrivent pas à vivre dans l'harmonie, même quand ils le veulent, tout simplement. Et c'est d'ailleurs, j'insiste, le sens du mot diable, diabolos en grec, qui signifie le diviseur, la force de division. Le grand drame de la politique est bien qu'alors qu'elle est supposée réunir les humains autour d'un projet commun, qu'elle est le lieu par excellence de conflits qui peuvent aller, dans certains cas, jusqu'à des conflits armés où on est prêt à trucider celui qui est pourtant un prochain. Et il n'est pas nécessaire d'aller très loin pour le constater quand on voit les luttes auxquelles certains se livrent pour gagner un tout petit pouvoir dans certaines de nos communes. Certainement pas ici, je ne parle pas de la région, certainement ça n'est que plus loin. Mais force est de constater que la politique, quand même, souvent, divise. Étymologiquement, elle fait l'œuvre du diable. C'est un fait. Elle dresse des peuples les uns contre les autres, des classes sociales les unes contre les autres, dans certains pays, des ethnies les unes contre les autres. Elle pose des barrières entre ceux qui sont supposés bons, c'est-à-dire généralement les nôtres, et ceux qui sont supposés mauvais, c'est-à-dire généralement les autres. Le théologien et politologue bien connu, Jacques Ellul, allait même jusqu'à faire remarquer dans son commentaire de ce texte que plus elle prétend rassembler, plus elle divise. Et que s'il est des discours desquels il faut particulièrement se méfier, ce sont bien les discours rassembleurs. Ils cachent souvent « rassemblons-nous », mais on oublie de dire « contre les autres ». Lors de cette tentation, Jésus est donc placé face à un choix radical. Le pouvoir offert par le diviseur ou le service de Dieu. Dans ce récit, il n'y a aucune place pour l'éventualité d'une bonne utilisation du pouvoir pour le rayonnement de l'Évangile ou que sais-je. S'il y en a un qui aurait pu exercer le pouvoir de façon positive, c'est bien Jésus. Il a pensé que ce n'était pas possible. Et il a dit non. Ce que nous dit notre texte, en d'autres termes, c'est que nous ne devons jamais considérer que si un pouvoir est en place, c'est que c'est Dieu qui l'a installé. Personne ne peut se prévaloir de cela. Et qu'il ne faut donc pas attendre que ce pouvoir face l'œuvre de Dieu. Et pourtant, le paradoxe est que celui-ci, le pouvoir, est nécessaire pour garantir le cadre dans lequel l'Église, elle, va être appelée à faire l'œuvre de Dieu. C'est un peu compliqué, mais c'est comme ça. Le scandale, c'est quand l'Église cède à la tentation à laquelle Jésus a résisté et essaie de se servir du pouvoir politique. Quand elle agit ainsi, elle fait exactement ce que Jésus a refusé de faire, et généralement, cela provoque des divisions dans l'Église et à l'extérieur, surtout quand elle pense qu'elle peut unir les hommes et les femmes par ce moyen. À la promesse du diable, Jésus oppose la seule révélation de Dieu. « Il est écrit », dit-il, ou les livres saints disent dans notre traduction. Il refuse de se placer sur le terrain de la morale pour commencer à argumenter sur les différentes façons d'exercer le pouvoir, en essayant de dire « mais il y en a peut-être des bonnes, des moins bonnes ». Non, il reste sur le terrain spirituel en soulignant avec lucidité que comme il est impossible d'exercer le pouvoir sans se courber devant celui qui le donne, il ne peut accepter celui-ci. Il en reste là. Et il importe donc qu'à chaque génération, et peut-être chaque, je dirais très régulièrement, l'Église sache revenir à cette vérité toute simple et redise régulièrement que, comme on ne peut servir Dieu et Mammon, pour reprendre un autre texte de l'Évangile, on ne peut non plus servir Dieu et César dans un même mouvement. Les deux sont nécessaires, Mammon et César, sont nécessaires à la vie en société, c'est vrai, mais ils ne peuvent pas et ne doivent pas être servis comme Dieu. Bien sûr, l'Église a le devoir, en certaines circonstances, de prendre des positions qu'on pourrait qualifier de politiques, mais pas pour s'allier au pouvoir. Les prophètes de l'Ancien Testament l'ont bien fait, mais évidemment, ils étaient toujours contre le roi en le faisant. Ils étaient toujours contre le pouvoir. Car ce doit toujours être, lorsque l'Église prend des positions au niveau politique, ce doit toujours être pour proposer un autre chemin, une autre voie, un contre-pouvoir. Elle ne doit jamais servir d'instrument de propagande ou de justification d'un pouvoir ou d'un parti, quel qu'il soit. Aujourd'hui, un peu partout dans le monde, des églises réfléchissent et font des contre-propositions, tant au niveau de l'économie que des relations internationales ou que sur le vivre ensemble, pour ouvrir de nouvelles voies. J'ai pas le temps ici de donner trop d'exemples, mais partout dans le monde, les églises réfléchissent à cela. Et quand elles le font, c'est toujours mal pris par les pouvoirs. En France, une faculté protestante de sciences politiques a été créée par des gens de l'Église réformée évangélique, d'ailleurs, à Paris et à Montpellier, pour réfléchir à ces questions et former des citoyens capables, des citoyens chrétiens capables de proposer des orientations nouvelles dans notre société. Mais il faut savoir que les propositions que nous pourrons faire au nom de l'Évangile seront toujours perçues comme des contre-pouvoirs par les pouvoirs en place. C'est inévitable. Et c'est bien ce que nous dit ce texte de l'Évangile. Et c'est peut-être cela aussi que Jésus voulait dire lorsqu'il a invité ses disciples à être engagé dans le monde sans être du monde, sans être dépendant de ce monde et sans plier le genou devant lui. Amen.